les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui dans la librairie francophone, on part en Australie découvrir les aborigènes. Vous entendrez aussi le témoignage émouvant de deux parents qui ont perdu leur enfant. Et nous allons vous conter des fables africaines avec Samy Tchak qui explore la chaîne alimentaire à sa façon. Bonjour Samy Tchak.
Bonjour.
Vous êtes un grand auteur togolais, vos livres sont traduits un peu partout dans le monde. Les fables du moineau, c'est le titre de votre nouveau livre. Ces fables racontent de petites histoires sur la vie et sur le monde. Ce monde qui, dites-vous, est un champ de bataille. Pourtant, il y a un équilibre naturel. C'est cruel mais nécessaire, ce champ de bataille.
Oui, c'est cette cruauté qui isole quand même à chaque fois choc. Est une nécessité. Sans elle, je pense quand même que le monde n'aurait quand même pas survécu. Il est plutôt, comme je l'ai dit dans les fables, guidé par une lumière unique qui naît du rapport inextricable entre la vie et la mort.
Voilà, avec la chaîne alimentaire. Et on va parler de cette chaîne alimentaire avec Samy Tchak, qui est dans la librairie francophone cette semaine. Patricia Vergouen et Francis Van de Woestijn ont perdu Victor, leur Victor. Il avait 13 ans et il les a quittés après un jeu sur le toit de leur maison en Belgique. Comment avancer et vivre avec sa peine ? Un témoignage poignant, pudique et magnifié par une écriture qui frôle la poésie. Et puis nous irons en Australie avec un livre reportage grand format. Frédéric et Sandrine Mouchet sont partis à la rencontre des aborigènes qui portent la culture ancestrale la plus ancienne de l'humanité. Nous évoquerons les conséquences des récents incendies sur la nature et bien sûr sur le peuple aborigène.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous. Deux nouveaux libraires nous rejoignent en ce début d'année au Canada. Katia Courteau est libraire dans la librairie Le Port de Tête à Montréal. Bonjour Katia.
Bonjour Emmanuel.
Où est située votre librairie ? Décrivez-nous ce que vous voyez à travers la vitrine. Tiens, présentez-nous votre établissement.
Alors, c'est situé sur le plateau Mont-Royal, qui est un quartier très actif de Montréal. Et la librairie, on propose en fait du livre neuf et de seconde main. Ça nous permet d'avoir une grande sélection de classiques, de livres rares, épuisés, et aussi les incontournables et les nouveautés. C'est une librairie qui est très vivante, qui propose plus d'une centaine d'événements par année, je dirais même jusqu'entre 100 et 150 événements par année. Et donc, on fait la fête au Port de Tête.
Et oui, c'est vrai que c'est un établissement, une librairie très active dans le monde littéraire québécois. Je la connais, cette librairie, elle est très chaleureuse. Bon, soyez la bienvenue, Katia, dans la librairie francophone.
Merci, je suis ravie.
En Suisse, une nouvelle libraire également. Elle est libraire à Martigny. Bonjour Yasmina Giacquinto.
Mais bonjour.
Vous dirigez la librairie du Baobab. Quel nom génial. On va parler du Baobab d'ailleurs avec Samy Tchak tout à l'heure. Comment elle est votre librairie, vous ?
Oh, elle est pleine de mouvement. Elle est sur l'artère principale de la ville, dans notre belle ville romaine qu'est Martigny. C'est une librairie généraliste. On a un grand secteur jeunesse. Et puis, comme au Canada, on organise énormément d'événements toute l'année, aussi bien des conférences que des concerts également.
Voilà, deux librairies très actives. On est ravis de vous accueillir. Soyez la bienvenue, Yasmina. Nathalie Clairin est-elle en Belgique ? Elle est presque habituée, ça fait quelques temps maintenant. Libraire dans la librairie de la Mazrine à La Hulpe. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Et enfin, bonjour Anne-Rosine Vosa.
Bonjour Emmanuel.
Vous vous représentez la France et vous êtes libraire en Martinique dans la librairie Le Papillon Bleu, en pleine période sèche d'ailleurs à Fort-de-France où il fait chaud mais un peu gris en ce moment. Pour ouvrir cette émission, coup de projecteur sur l'actualité littéraire qui a marqué la semaine. Un nouveau président de l'Académie Goncourt a été nommé. Il s'agit de l'écrivain et scénariste français Didier Decoin que l'on a déjà reçu dans cette émission et il est en liaison avec nous. Bonjour Didier Decoin.
Bonjour Emmanuel.
Félicitations Didier.
Ben merci, c'est pour moi un grand bonheur et un grand honneur.
Quel est le rôle du président de l'Académie ? Qu'est-ce que ça change pour vous, qui étiez déjà membre du jury du Goncourt ?
Écoutez, pour moi ça change pas grand-chose et j'espère que pour mes camarades ça changera pas grand-chose non plus dans nos relations très chaleureuses d'amitié. C'est un tout petit groupe l'Académie Goncourt, nous ne sommes que 8. Ouais. Alors le président de 8 personnes, ça n'a rien à voir avec ni Donald Trump, ni Emmanuel Macron, voyez-vous.
Oui, vous êtes 10 normalement, Didier.
Modeste.
Vous êtes 10 normalement. Là, vous êtes 8, mais normalement, vous êtes 10.
Bah là, on est 8, oui.
Ouais.
Bon. On va être très bientôt 10. On est en train de travailler à faire venir, si on peut, une femme.
Ouais.
Pas facile à trouver, les femmes écrivaines.
Ah, ben, je vais vous donner des noms, il y en a.
Mais oui, il y en a, mais quand on leur pose la question, elles me disent ah oui, mais c'est trop de travail, je peux plus écrire.
Eh oui.
C'est très chronophage, l'activité de membre de l'Académie Goncourt. Et puis, ben voilà, on va essayer de trouver aussi un monsieur qui est de l'envergure. Qui... Mm-hmm. Mais c'est vraiment pas facile. Il y a 15 ans, les gens se roulaient par terre pour entrer, pour avoir un couvert, parce que chez nous, c'est des couverts. Et aujourd'hui, ben c'est beaucoup plus difficile de recruter.
Avez-vous des idées, avez-vous des envies, d'ailleurs, Didier Decoing? Qui aimeriez-vous voir à l'Académie Goncourt? Vous avez des noms?
Moi, il y a quelqu'un que j'avais envie de voir, mais je crois que ça va être très, très difficile. J'avais envie, depuis longtemps d'ailleurs, de voir Amélie Nothomb,
oui,
qui représente un lectorat qui est vaste, qui est varié.
Exact,
qui est...
Oui.
Bon, ça m'intéresse beaucoup, mais je crois qu'elle n'a pas tellement apprécié le fait d'avoir été emmenée jusqu'en finale du prix Goncourt. Et puis, bon,
oui, on y a tous cru. Hein, voilà. C'est vrai que même nous, on y a cru. Hein. On a cru à Amélie Nothomb.
Moi aussi, j'y ai cru. Moi aussi, j'ai tellement cru que j'ai voté pour elle. Alors, c'est vous dire.
Oui.
Mais bon, je trouve qu'elle a vraiment sa place chez nous. C'est une femme généreuse dans sa façon de vivre et d'aimer les écrivains.
C'est vrai.
Voilà, mais bon.
Bon, on lui conseille d'y aller aussi. Elle nous écoute assez
vous
souvent,
aussi.
Amélie. On va lui dire. Allez, on lui dit là, allez-y, Amélie Nothomb. J'aime beaucoup votre franc-parler, Didier Decoing. Vous êtes toujours comme ça, honnête, et vous dites les choses. Alors justement, Françoise Chandernagor était aussi candidate à la succession de Bernard Pivot. Elle est furieuse d'après les indiscrétions et les coulisses de cette élection. Comment allez-vous faire pour vous entendre si l'Académie est divisée avec Françoise Énervé?
Mais il n'est pas question qu'elle soit divisée. D'ailleurs, on s'est fait un gros bisou à la fin du scrutin.
Oui.
Elle a toute sa place et plus que sa place. Vous savez, encore une fois, je le répète, on est que bon, on va être 10, mais on est même 10, c'est pas nombreux. Et on a besoin des opinions, des avis et des actions de tout le monde.
C'est vrai.
On n'a pas, Françoise et moi, on n'a pas tout à fait, on est entrés ensemble à la Goncourt. On n'a pas tout à fait la même vision des choses. Elle a une approche très juridique et très économique de l'Académie, et elle a raison, parce que ce sont des pilotis sur lesquels il faut s'appuyer. Moi, j'ai une vision un petit peu différente. Mon approche de l'international, par exemple, elle ne le partage pas. Je ne sais pas qui a raison de nous deux. Moi, je suis convaincu qu'il faut élargir.
À la francophonie, évidemment, Didier Decoing, c'est ce que vous portez.
Bien sûr. Vous savez, la première... je ne vais pas dire narration, mais rédaction que j'ai eu à faire quand je suis entré au collège, en classe de 6e, c'était « Aimez-vous la langue française ? Et si oui, pourquoi ?» Alors j'ai fait un effort pour faire quelque chose de pas trop idiot. J'avais une assez bonne note, peut-être 12 sur 20, quelque chose comme ça. Et ça m'avait marqué d'avoir eu ça comme sujet d'entrée dans l'école des grands, en quelque sorte. Et je nourris pour cette petite langue française. Je dis petite parce que c'est de la tendresse, hein, quand je dis petite. Une véritable passion.
Ouais, ouais.
Je la trouve belle, je la trouve formidablement adaptable à tous les cas de figure, à toutes les situations. Comme aujourd'hui, notre langue s'adapte au numérique, ça, c'est une qualité qu'elle a.
Bien
cette
sûr.
Petite
bon.
Fille française. Hein.
Et diversifiée surtout, c'est une langue diversifiée à travers toute la francophonie. C'est ce que vous souhaitez porter, on l'a bien compris. Merci beaucoup Didier Decoing, merci.
Merci à vous.
Merci d'être intervenu dans la librairie francophone, vous y serez toujours le bienvenu en tant qu'auteur ou président donc du Goncourt. À bientôt Didier.
À bientôt Emmanuel, merci beaucoup.
Et bonjour Sandrine et Frédéric Mouchet.
Bonjour.
Vous
Bonjour.
Publiez Australie aborigène Walkabout aux éditions Glénat, un livre de textes et de photos. Vous êtes allé sur les territoires des aborigènes, Kimberley, Arem et la péninsule du Cap York dans le nord du pays. C'est notamment à ces endroits que les incendies ont fait rage. Avant de parler des conséquences de ces incendies sur les populations aborigènes, parlons de ce peuple qui a porté une culture ininterrompue depuis la préhistoire et qui serait la plus ancienne du monde.
C'est ça, oui. Ça fait 50 000 ans qu'ils occupent l'Australie. Donc il n'y a pas de culture plus ancienne aujourd'hui, vivante.
Et tout est indissociable sur Terre, tout est interdépendant, c'est ce que vous expliquez.
Exactement, ils ont une vision du monde où chaque élément est lié l'un à l'autre. L'homme, l'animal, le végétal, le minéral, tout ne forme qu'un bloc. tout est la conséquence du passage des ancêtres créateurs.
Voilà. Alors vous connaissez peut-être, vous qui nous écoutez, le fameux rocher Uluru, un site sacré qui vient tout juste d'être interdit au tourisme. Il y a désormais un périmètre interdit autour pour éviter aux touristes de gravir ce rocher. Car, Sandrine, c'est une marque concrète du passage des ancêtres, ce rocher-là.
Oui, tout à fait. Ce rocher a été, il se situe dans la création. Il y a tout un lien. De loin, on a l'impression que c'est un gros bloc de pierre, mais en fait, il est empli d'infractuosité, de relief. Et pour les aborigènes, il est empli de mythologie pour les peuples Anangu qui sont sur place et puis les d'autres peuples aussi. Donc, ce rocher est empli de mythologie et c'est un lieu de rassemblement pour les populations locales.
Oui, la culture des aborigènes nommée le temps du rêve part du principe que nous passons par l'état animal, par exemple, avant de devenir humain, puis de finir en rocher ou caverne.
Alors, pas spécialement, c'est beaucoup plus complexe, mais
Pour faire comprendre pourquoi ce rocher Uluru est très important.
Alors, il est important, en fait, comme pratiquement tous les éléments du territoire australien. Simplement, il est central. Quand vous êtes dans cette région, c'est une région très plate. Le seul relief, c'est ça, avec les dômes de Katajuta qui sont à côté. Donc, évidemment, ça a attiré le sacré, inévitablement, d'autant plus qu'il y a de l'eau, il y a de la vie animale autour. Mais quand on regarde de près, l'essentiel du territoire australien est sacré.
Alors, ils se servent avec parcimonie, d'ailleurs, de la nature. Ils s'en nourrissent, ils se soignent avec certaines plantes, et à chaque fois, le strict nécessaire. C'est une vraie leçon pour l'humanité, ça.
Oui, je pourrais vous raconter l'histoire de la petite grenouille du désert.
Allez-y, très intéressant, cette histoire.
Il y a une grenouille qui, pour supporter la sécheresse en Australie, se gonfle d'eau, s'enterre, et reste comme ça des mois jusqu'à la prochaine pluie. Et les aborigènes ont la capacité de détecter les terriers de grenouilles, pour s'abreuver, de prendre le liquide nécessaire.
Ils pressent sur la grenouille pour avoir un peu d'eau.
Exactement. Et ensuite, ils en laissent une partie, ils reposent la grenouille dans le terrier, referment le terrier. Donc elle survit jusqu'à la prochaine pluie, et eux peuvent survivre aussi grâce à cette eau.
Ils partagent l'eau avec la grenouille.
Exactement.
C'est incroyable, cette histoire.
Ah oui, oui. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça.
On les imagine comme ça, presser la grenouille pour avoir un peu d'eau, puis laisser la grenouille en plan, avec le strict nécessaire pour qu'elle puisse s'abreuver à la prochaine pluie.
Pour que la vie continue.
Oui. Il y a une pratique nommée le walkabout, donc, qui consiste à voyager en cheminant le long des itinéraires suivis par les ancêtres du temps des rêves.
Le walkabout, en fait, c'est un voyage initiatique. C'est le moment où les aborigènes partent sur le chemin de leurs ancêtres créateurs et ils vont dans des lieux sacrés se connecter à eux et revivre, en fait, le temps de la création. Et de ce moment-là, ils tirent des connexions spirituelles et des enseignements qui vont les aider à vivre et à bien vivre sur cette terre.
Alors, deux libraires ont lu ce beau livre de textes et de photos, la France et la Belgique. On va commencer avec la Belgique et Nathalie Clairin, qui est enchantée par ce livre, paraît-il, Nathalie.
Oui, tout à fait, Emmanuel. Je suis complètement enchantée par votre beau livre, Frédéric et Sandrine. La proportion photo-texte est parfaite. Alors, j'ai beaucoup aimé l'approche reportage, mais avec toujours cet aspect artistique. Et également, au-delà des paysages qui sont époustouflants, on entre vraiment dans l'intimité des habitants avec des anecdotes que vous avez vécues sur place dans votre séjour de 2 ans, ce qui rend la découverte tout à fait personnalisée. Puis viennent à point le glossaire, un carnet de voyage. J'ai trouvé ça précis, pragmatique. En un mot, votre ouvrage, il a tout pour me plaire.
Merci beaucoup.
Merci. La France avec Anne-Rosine Vosa en Martinique à Fort-de-France. Avez-vous apprécié ce livre aussi?
Ah oui, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce livre. J'ai trouvé que il était magnifique et bien évidemment, il prend une toute autre dimension depuis le désastre écologique qui a vu partir en fumée des millions d'hectares de territoires à l'origine peuplés par des aborigènes. Et en effet, personne ne s'était vraiment soucié de leur sort pendant les incendies et ce livre est un bel hommage à leur mode de vie et à leur authenticité. Le contraste entre les photos de la nature en couleur et les photos des hommes en noir et blanc est un message très fort et j'y vois une volonté de la part des auteurs de souligner à quel point ce peuple est étroitement lié à la nature.
C'est vrai que les photos sont magnifiques. Frédéric, c'est vous qui avez pris les photos?
Oui, c'est moi. Je vous remercie.
Cette relation fusionnelle entre les individus et l'environnement comporte des secrets. Parmi eux, il y a la stratégie du feu. Alors racontez-nous, Sandrine, qu'est-ce qui se passe en Australie? C'est un peu ce qui s'est passé en Amazonie, en fait, l'été dernier, au Brésil, avec la technique du brûlis, où on brûle des terres pour pouvoir clairsemer, finalement, certains endroits, pour pouvoir régénérer aussi une partie des terres.
Voilà, en fait, traditionnellement, les aborigènes pratiquaient des feux préventifs. C'est-à-dire qu'ils concevaient le territoire avec des parcelles. Il y avait des parties qui étaient pleines d'herbes, et puis d'autres avec des bosquets, d'autres avec des arbres, mais jamais une telle concentration de forêt comme on a aujourd'hui. Et puis, avec la fin du 18e, l'arrivée des Européens, on a abandonné ces pratiques. On n'a jamais pensé que la façon, l'Australie qu'ils avaient découverte à l'époque, qui ressemblait un peu à un parc ou à un jardin, était en fait le fait des hommes, avait été complètement organisé. Donc, ça permettait deux choses. Ça permettait aux aborigènes de chasser, puisqu'ils pouvaient repérer le gibier qui venait sur ces parcelles d'herbe, etc., de le repérer, de le chasser, de prélever, comme vous le disiez, le minimum. Et puis, ça permettait aussi de prévenir ces grands feux, ces grands incendies, pour éviter d'avoir une telle ampleur.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est que de nombreuses espèces végétales se sont du coup adaptées à ces situations d'incendie, ce qui incite finalement les aborigènes à croire encore plus fort aux bienfaits du feu sur la nature. Les eucalyptus, pour ne citer qu'eux, ont développé une huile qui favorise l'embrasement.
Alors en fait, les eucalyptus ont développé toute une stratégie par rapport au feu. Alors déjà, ils survivent au feu parce que leurs racines leur permettent de survivre. En plus, ils ont cette huile hautement inflammable. Même dans la canopée, ils libèrent une vapeur qui fait que le feu... Donc en fait, pour eux, c'est une stratégie non seulement de survie, mais de prendre, en fait, d'avoir une emprise sur les autres espèces. C'est une sorte de compétition. Et plus il y a de feu, plus l'eucalyptus va se développer.
Oui, parce que lui, il résiste.
Voilà, lui, il résiste.
Contrairement aux autres arbres.
Oui, oui.
Ah oui, c'est incroyable.
Et après,
cette histoire.
On a plein d'autres espèces, effectivement, qui se sont adaptées au feu, des espèces qui résistent au feu.
Ouais. Mais ces feux doivent être maîtrisés. Or, c'est ce qui s'est passé récemment. On n'a rien maîtrisé du tout.
Ah oui, là, la situation a échappé à tout le monde. Et je pense que les aborigènes se demandent pourquoi on n'a pas tiré bénéfice de leur expérience qui date d'il y a plusieurs millénaires. Ouais.
Il y a dans ce livre d'ailleurs une photographie que vous avez prise, hein, Frédéric, avec un panneau de prévention pour inciter la population à contrôler les feux.
Oui, ça c'est un petit peu partout dans le pays, mais c'est une terre hautement inflammable, l'Australie, donc ça a toujours été un souci permanent. Évidemment, là, les feux ont pris une ampleur terrible avec les effets du réchauffement climatique, mais l'idée du feu fait partie de l'Australie.
On a trouvé un reporter justement qui est allé recueillir les impressions des aborigènes et de l'impact de ces feux sur les aborigènes. Écoutez.
Dans un article publié dans The Guardian, Lorena Allam, aborigène de Nouvelle-Galles du Sud et journaliste, témoigne à titre personnel. Comme vous, j'ai vu avec angoisse et horreur le feu ravager la précieuse terre des Yuin, emportant tout avec lui. Des vies, des maisons, des animaux, des arbres. Mais pour les peuples des Premières Nations, il brûle aussi nos souvenirs, nos lieux sacrés. Toutes les choses qui font de nous ce que nous sommes.
On a brûlé les lieux sacrés.
Forcément.
Oui.
Forcément.
On a une estimation de l'ampleur des dégâts ou pas encore?
Alors, non, sincèrement, je ne sais pas. Mais quand on voit à quel point l'ensemble du territoire est maillé de lieux sacrés, c'est forcément le cas.
Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, tout est indissociable, tout est interdépendant, donc le drame est considérable pour les aborigènes.
Oui, je pense que c'est, on peut parler de drame en effet, et encore une fois, sûrement lié à l'amertume de ne pas avoir été écouté plus tôt. Oui.
Ont-ils cette capacité de résilience, puisque vous les avez côtoyés? Peuvent-ils imaginer que ces feux sont l'œuvre des ancêtres et qu'il faut vivre avec, et qu'il faut avancer avec?
Une capacité d'adaptation certainement, puisque comme on le disait, ça fait 50 000 ans qu'ils sont sur cet île continent, ils ont survécu aux périodes de glaciation, à des périodes de sécheresse, la montée des océans, donc ils ont survécu à toutes ces périodes, et donc forcément une grande capacité d'adaptation.
Capacité d'adaptation et pouvoir incroyable chez les aborigènes. On peut pas parler de tout ce qui est dans le livre, mais vous racontez certaines traditions, notamment cette musique avec l'instrument didgeridoo qui permet de guérir les animaux, de guérir les hommes, et vous avez assisté à cela d'ailleurs.
En fait, on a passé pas mal de temps en terre d'Arnhem avec un joueur de didgeridoo qui le fabrique. On est allé avec lui dans la forêt chercher cet instrument. Et en fait, effectivement, il avait un chien qui était épileptique et on l'a vu jouer du didgeridoo dans l'oreille du chien. Et peu de temps après, le chien, on le voit gambader sur la plage. Il est d'ailleurs sur une autre photo pas loin. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. Une belle leçon d'humanité.
Et la suite de cet entretien, ce sera dans la version télé de la librairie francophone en février sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV et TV5 Monde. Vous serez nos invités et nous parlerons, nous montrerons notamment des cascades horizontales, les bilabongs aussi, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez cette émission, mais aussi donc l'énergie transmise par les instruments de musique qui soignent hommes et animaux, entre autres. Merci Sandrine et Frédéric Mouchet. Merci beaucoup.
Merci.
Australie aborigène est parue chez Glénat. Dans un instant, le récit poignant et bouleversant des parents de Victor, parti à l'âge de 13 ans suite à un accident. Deux parents belges devenus auteurs avec leurs textes pudiques et lumineux. Avant cela, voici le nouveau titre de Jean-Louis Aubert dans la librairie francophone.
Je vis à l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée. Le temps s'est envolé, a cessé de couler. Les jours passent comme de l'eau à mes pieds immobiles. De grandes roues dentelées semblent me regarder. L'amour suit son cours et le cours de ce jour. Et le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante, la nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds, près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. L'amour suit son cours. Le maître dit respirer. Au loin il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée, la ville et souvenirs. En vain chante ces trains et je sais où ils mènent, dans la gare désertée. Chante un autre avenir. L'amour suit son cours et le cours à ce jour. Le maître a dit rester. Les saules coulent des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel. Tendrement reflété, si parfois une rose semble dire quelque chose, c'est chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose, pense tes échymoses, ne pense plus à ces choses, c'est là que tu te poses, ton voyage t'a l'ordi. Oiseau du paradis et le cours d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver.
C'était le nouveau titre de Jean-Louis Aubert avec Où je vis.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et bonjour Patricia Vergoen.
Bonjour.
Bonjour Francis Van de Woestein.
Bonjour.
Soyez les bienvenus. On va être honnête avant de commencer cet entretien. On lit votre récit Les larmes aux yeux. On pleure même souvent. Ce livre va parler à de nombreuses personnes et je vais être honnête jusqu'au bout en vous disant qu'il a fait écho en moi sans vouloir m'étendre et parler de ma famille. Voilà. Donc c'est un sujet très dur mais très intime. Vous racontez la mort de votre enfant avec beaucoup de pudeur et de lumière. On va donc essayer d'être digne comme vous aujourd'hui. Je vais tout de suite donner la parole à un premier libraire qui va nous donner ses impressions sur ce récit qui s'appelle Un enfant, paru chez Grasset. Et on va laisser la parole à Yasmina Giaquinto en Suisse.
Oui, c'est un récit bouleversant qui va de votre cœur de parent à mon cœur. de maman. Alors bien sûr que vous m'avez embarqué, que j'ai eu l'émotion au bord des yeux durant toute la lecture. Par vos mots, vous nous tenez en équilibre sur ce fil si ténu de la survie. Et plus que jamais, vous nous prouvez à nous, lecteurs, humains et sensibles, que les mots ont ce pouvoir de résilience. Victor sera longtemps dans mes pensées.
Alors Victor a 13 ans, quand il tombe du toit en train de tourner une vidéo avec son cousin, vous êtes au restaurant quand votre fille Alice vous prévient dans la panique totale, vous racontez ce moment impensable où l'on voit son enfant en train de mourir sur les pavés, et Francis vous dites qu'à ce moment-là, votre femme est plus forte que vous.
Oui, totalement. Lorsque nous arrivons sur les lieux, moi je vois la masse sombre de Victor sur les pavés et je suis dans l'incapacité total, physique, de rester debout. Donc je m'effondre à quelques pas de lui. En plus, c'est le jour du marché, il y a des bruits qui sont de là ou de loin et qui m'insupportent vraiment. Moi, je voudrais que tout le monde se concentre sur mon fils, mais en même temps, je ne peux pas m'en approcher parce que voilà, c'est plus fort que moi. Moi, enfin, j'ai plutôt l'habitude, je dirais, dans le couple, de gérer les choses. Mais là, voilà, je laisse Patricia.
Patricia n'est pas d'accord.
Je laisse Patricia avancer vers Victor parce que et les médecins, et je suis sûr que voilà, qu'elle aura des gestes que moi je ne pourrais pas poser. Et ça durera plusieurs jours. Je veux dire, je pense que les hommes ont peut-être quelque part, ou plutôt, je vais dire les choses positivement, je pense que les femmes ont peut-être un surcroît de force, d'énergie, de sérénité que les hommes n'ont pas.
Patricia, vous êtes médecin, vous êtes pédiatre. C'est ça qui vous a aidé à affronter l'accident ?
Mais je pense que je me dirige vers Victor en tant que maman. Mmh. Et je pense que c'est pas la pédiatre qui va près de son fils, c'est une maman. Et c'est impossible de faire autrement. Je pense que j'ai l'impression que toutes les mamans du monde auraient fait comme moi. Alors j'ai entre guillemets un avantage, c'est que comme je suis pédiatre, je me suis imposée face au secours qui était déjà là. Et donc j'ai participé à la réanimation de Victor. C'est impossible autrement. J'ai fait ça pendant toute ma vie et il est hors de question que je ne fasse pas ça pour mon enfant. Mais je pense que c'est surtout une maman qui a besoin d'être là à côté de son enfant au moment où il s'en va pour toujours. Je pense qu'il faut être là.
Vous avez écrit ce livre à deux, en alternant vos impressions, vos sentiments, votre vécu aussi. C'est Geneviève Dama, que l'on salue, que l'on connaît bien dans cette émission, autre grande écrivaine belge, qui vous a aidé à assembler vos textes. Et Francis, vous racontez vos souvenirs avec Victor. Il y en a beaucoup des souvenirs avec Victor. Alors que vous êtes rédacteur en chef du grand journal belge La Libre Belgique, Victor s'est toujours préoccupé de votre bonheur au travail. Car quand on est un journaliste exposé, parfois la vie est compliquée. Et ça, il le ressentait. Il vous rassurait.
Oui, c'est vrai que j'avais l'habitude de raconter la journée au journal le soir, et il me posait toujours beaucoup de questions sur la manière dont les choses se déroulaient, parce que voilà, être rédacteur en chef d'un journal, peu importe sa taille, c'est peut-être une expérience ardue, et il y a la gestion des égos, des petites tracasseries, effectivement. Donc ça, c'est compliqué. Et voilà, Victor avait cette curiosité, mais il posait aussi beaucoup de questions à sa maman, à ses frères et sœurs qui commençaient aussi à être actifs dans la vie. Donc oui, il avait cette curiosité et ça m'amusait de lui raconter des petites choses, oui.
Vous écrivez « Jusqu'au dernier jour de mes jours, je me repasserai le film de ce 4 novembre 2016 ». Et en fait, vous expliquez avec vos mots, tous les deux, avec beaucoup de délicatesse et même de poésie, je le disais tout à l'heure, que l'on ne fait jamais le deuil d'un enfant. On vit avec et on reste inconsolable, mais on vit quand même, Patricia.
Je ne sais pas, en fait. Je pense qu'on essaye de rester debout, mais je pense qu'on essaye de rester aussi parce qu'on a la chance d'avoir d'autres enfants.
Oui, vous en avez 4 autres.
On en a 4 autres, on est une famille recomposée, et je pense que si nous on tient, eux tiennent, et vice-versa. Je pense que si eux s'effondrent, nous aussi, donc c'est un peu un vase communicant. Donc au départ, c'est comme ça qu'on tient.
Avec des stratégies pour ne pas sombrer. Vous expliquez ça, tenter de vous réjouir de certains moments de la vie, une rencontre, une lecture, un achat, peu importe, il faut se réjouir pas à pas, en fait, de ce qu'il y a autour de nous.
Oui, parce que tous les jours, j'ai l'impression que parfois c'est le lendemain de sa mort, donc je dis que ça reste comme une douleur le matin, une espèce de... Il faut réapprendre sa mort tous les matins, et c'est vrai que il faut réapprendre à vivre et que les premiers rires parfois se paraissent incongrus quand on recommence à vivre. Ça paraît surprenant que l'on puisse effectivement se réjouir, aller au cinéma, au restaurant. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'autre solution, je trouve, que de rester, même si parfois l'envie de le rejoindre reprend. Mais oui, on a envie de continuer à vivre d'abord pour nos autres enfants, pour notre conjoint, parce que la vie parfois est plus forte finalement.
Et alors il y a Sophie aussi, Xavier, Alice et Louise. On continue pour eux en fait, on se tient pour qu'eux ne sombrent pas, vous l'avez dit. Et Francis, vous racontez ce moment où votre fille, qui doit se rendre à un examen, vous dit « je n'y vais pas, ça n'a pas de sens ». C'est vous, Patricia. Alors vous voyez, j'ai eu un doute parce que c'est tellement bien mêlé finalement ce récit, on ne sait pas toujours qui parle et c'est ça qui est intéressant aussi. Et vous lui répondez « oui, moi aussi, je vais rester au lit le matin et ne plus aller travailler, qu'est-ce que tu en penses ?»
Au moment de partir, elle me dit « ben non, je vois pas l'intérêt d'y aller ». Et je me suis dit « ben moi, je vais te dire que je vais faire la même chose ». Parce que, et c'est ça que je disais comme vase communicant, c'est que si elle n'y va pas, moi je n'y vais pas non plus. Et en fait, c'est pas possible pour elle, ça, que ouais, je reste dans mon lit. Je pense que c'est une manière de se tenir chacun sans se le dire. C'est assez pudique, en fait. C'est une manière différente de dire « il faut rester debout », en fait.
Ce qui est étonnant, c'est que vous arrivez à reprendre le travail. Vous le reprenez très vite, hein, le travail, au bout de 3 semaines. Et vous êtes pédiatre, vous, Patricia. On se demande comment vous arrivez à soigner des enfants malades, parfois très malades d'ailleurs. Et vous reprenez le dessus quand même. Vous dites, en revanche, il y a des moments comme ça de désespoir, vous dites envier toutes les mamans qui n'ont pas perdu d'enfants. Toutes celles, même celles qui mendient dans la rue, même celles qui sont dans un pays en guerre.
Oui, ça peut paraître choquant que je dise ça, mais chaque fois je le pense encore aujourd'hui. Je les envie toutes, je ne peux pas dire autrement. Alors, au travail, c'est différent parce qu'on a une... Enfin, au travail, je soigne les enfants, c'est vrai. Je sais ce que c'est que l'irréversible et donc je pense aussi que j'ai un pouvoir de persuasion pour toutes ces mamans, parce que toutes les parents sont très inquiets, quoi qu'il arrive, pour leur enfant en général. Et donc, je pense que j'ai appris, avec l'histoire de la mort de Victor, à être extrêmement efficace pour leur faire comprendre que c'est pas si grave que ça, ce qui arrive à leur enfant, en fait.
Victor était un enfant affectueux, prévenant, bienveillant. Vous le montrez tout au long du récit, il aimait les voyages et les livres. Il lisait tout le temps, à n'importe quelle heure, vous alliez souvent dans les librairies avec lui, mais il s'affranchissait un peu des conseils des libraires. Hein. Il choisissait ce qu'il voulait. Il y a un autre libraire qui a lu votre ouvrage, il y a Le Canada avec Katia Courtois. Katia, qu'avez-vous pensé d'un enfant ?
Oui, alors, quelle lecture déchirante. Comme lectrice, je me suis sentie parfois à la limite du voyeurisme. Tant vous nous donnez accès à votre intimité émotionnelle, il y a, malgré cette tragédie, cette souffrance que vous écrivez, une lumière qui apparaît à la lecture. Victor, lui-même, que vous perpétuez avec ce témoignage très touchant.
On va parler... oui, allez-y.
Non, mais ça me fait plaisir que cette libraire parle de lumière dans le livre, parce que c'est le sens de toutes les réactions que l'on a reçues jusqu'à présent des lecteurs. C'est de dire qu'effectivement, au départ, parfois certains tournent autour du livre, parce que la mort d'un enfant, évidemment, ce n'est jamais facile, mais voilà, ils ressortent avec le sentiment qu'il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'amour.
Il y a aussi Ernest que vous évoquez, son cousin frère. Ils étaient très proches tous les deux, ils étaient tous les deux sur le toit. Ernest qui lui aussi a dû survivre à son départ, il est plus jeune encore de 2 ans. Et le papa d'Ernest dira à l'enterrement « Victor, mon très grand Victor, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je reste ton parrain et je te fais maintenant la promesse d'être là pour tes parents. » Et vous soulignez l'importance d'avoir été, d'être toujours entouré. Il y a des proches comme ça avec lesquels on partage une histoire commune. On ne partage pas sa peine, mais on avance ensemble. Et on tente de trouver non pas du réconfort, mais justement de la lumière pour avancer.
Oui, ça je voudrais dire à quel point c'est absolument indispensable, crucial, enfin je ne sais pas quel mot utiliser, mais que les autres soient là et qu'ils fassent chemin avec nous, non pas le lendemain, non pas une semaine, un mois, un an, mais... 3 ans, et je voudrais que dans 10 ans, ils soient encore là, qu'ils soient encore là et qu'ils nous autorisent encore à parler de Victor. Et donc ça, c'est capital, je pense, de continuer à parler des enfants ou des parents, des proches qui sont partis.
Patricia, vous êtes touchée par un garagiste et un restaurateur qui ont gardé la photo de Victor. Il y a ce garagiste qui dira même « Tant que je travaillerai ici, Victor restera ».
Oui, et donc les autres qui nous entourent, c'est les proches, comme Francis l'a dit, nos enfants, évidemment, notre famille, nos amis, mais c'est aussi des gens auxquels on ne s'attend absolument pas, qui vont tout d'un coup se manifester, comme cette personne à la maternité qui me prend dans ses bras, qui s'occupe de l'entretien à la maternité et qui me dit « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi vous dire, alors je vous prends,
alors,
dans,
je
mes
prends
bras.
Dans mes bras ».
Voilà,
j'ai
trouvé ça magnifique. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup de personnes auxquelles on ne s'attend pas et ça fait tout autant de bien que...
Il y a une petite fille aussi que vous examinez.
Oui.
Il y a ce texte, page 205, vous dites « En fin de consultation, la maman me demande comment je vais. Elle sait que j'ai perdu un enfant. Pendant quelques phrases, quelques mots au bord des larmes, je raconte comment je vais. Et cette petite fille, qui perçoit l'émotion dans ma voix, s'avance et met sa main toute petite dans la mienne. » Elle vous a transmis le relais, cette petite fille.
Mais je pense que les enfants ont une capacité émotionnelle bien plus grande que les adultes. Mmh. Et donc, elle a tout à fait senti qu'il y avait quelque chose chez ce docteur qui n'était pas tout à fait habituel. Donc voilà, je pense que...
Bon, vous racontez votre intention de lancer une fondation. Il y a un fonds Victor aussi qui a été créé pour inciter les jeunes à la lecture, Francis.
Oui, c'était une des passions de Victor qui était aussi branché, comme les garçons de son âge, sur les réseaux sociaux déjà, et qui regardait pas mal la télévision, les séries, etc. Mais il avait cette passion que lui avait donné, je pense, un bibliothécaire quand il avait 7-8 ans. Il partageait beaucoup de plaisir de lecture avec sa maman, et il avait vraiment cette grande passion de la lecture. Et c'est vrai que même parfois le matin au petit déjeuner, je devais lui dire « Arrête de lire, mange !» Mais c'est un peu avec le recul, je me dis « Mon Dieu, pourquoi lui ai-je dit ça ?» Mais voilà. Et on s'est dit que voilà, on voulait perpétuer un peu sa mémoire, et que quoi de plus beau que la lecture.
Alors
et
qu'est-ce
que
vous faites justement là?
Tout se trouve sur le site internet. Le fondsvictor.be. Donc
le
fondsvictor.be. Pardon. Mmh. Nous finançons des projets dans les écoles. D'accord. Il y en a 5 la première année, 9 la deuxième, 18 cette année-ci. Nous avons créé un prix première Victor du livre jeunesse
en partenariat avec la RTBF.
Exactement.
Qui sera remis au prochain salon du livre à la Foire du Livre de Bruxelles.
Vous savez tout. Ouais. Voilà. Oui. Oui.
Bon, on en parlera. Oui. On va vous suivre et on va essayer de vous aider dans la librairie francophone pour ce fonds Victor.
Oh, écoutez,
on va réfléchir.
Ce serait fantastique.
On va faire ça, je vous promets qu'on va le faire.
Merci.
À Victor.
À Victor. On va essayer la recette aussi, la tomate mozza, avocat, sur cracotte et salade verte. C'est la recette de Patricia, parce qu'elle ne cuisine pas et Victor a adoré quand même. Bon, merci beaucoup Patricia Vergoen et Francis van de Wechtein. Merci beaucoup.
Merci.
Un enfant est paru chez Grasset. Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires, avec tout de suite un coup de cœur, Anne-Rosine Vosa en Martinique.
Oui, j'ai eu un coup de cœur pour « C'est quoi les fake news ?» écrit par Sandrine Laboucari et illustré par Jacques Azam et Aurélie Verdon, qui est paru aux éditions Milan Jeunesse. Alors, c'est un petit documentaire extrêmement pédagogique réalisé par l'équipe de la série « Un jour, une question » sur France 4. Et il fournit à l'enfant tous les outils intellectuels nécessaires lorsqu'il est confronté au flux d'informations qui se propagent sur les réseaux sociaux. C'est un livre à mettre entre toutes les mains dès l'âge de 9 ans.
Très bien. C'est quoi les fake news chez Milan Jeunesse? Merci à notre coup de cœur en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Moi, un grand coup de cœur pour le roman policier de celui qu'on appelle shérif en Belgique. J'ai nommé le juge d'instruction bruxellois Michel Claes et son roman Cobre, qui signifie cuivre en espagnol. Et ceci en pleine crise actuelle chilienne, puisque dans le roman, nous sommes en 1973, juste après le coup d'État de Pinochet et le décès de Salvatore Allende. Et nous suivons un jeune attaché de presse qui s'est vu confier une mission par le président déchu. Et le sujet est brûlant, puisqu'il s'agit des dérives d'un pouvoir absolu et des intérêts économiques américains pour le cuivre, au mépris récurrent des droits de l'homme.
Le grand Michel Claes, qui est aussi juge d'instruction et très bon écrivain, c'est aux éditions Genèse, Les Poches Belges. Merci beaucoup, Nathalie. En Suisse, Yasmina Giaquinto, un coup de gueule, votre premier coup de gueule pour votre première participation, allez-y.
Oui, c'est ça. Vous savez, en janvier, c'est le grand chambardement en librairie. On remplit nos cartons des invendus de fin d'année pour les retourner à nos diffuseurs. Et là, je peste. Je peste quand je vois la quantité d'ouvrages qui n'ont même pas eu la chance de finir sur nos étagères, parce qu'ils sont restés planqués à l'arrière-boutique et n'ont pas trouvé de lecteur. Je peste encore contre les robots qui ont remplacé la main de l'homme. Et je peste contre les empreintes de chaussures sur certains livres. Et où ce monde doit aller si vite. Les livres nous humanisent et nous oublions qu'ils ont de la valeur.
Respectons les livres, vous avez raison. Merci Yasmina. Autre coup de gueule au Canada, Katia Courteau.
Oui, je me fais plaisir avec ce coup de gueule. J'ai envie de m'adresser à la clientèle touristique, non pas en général, mais bien celle qui ose nous demander, écoutez bien, le Petit Prince de Saint-Exupéry traduit en québécois. Alors je vous dirai, laissez, je vous prie, le Petit Prince intact et choisissez plutôt un dictionnaire des expressions québécoises pour étancher votre curiosité ou lisez les superbes livres de Michel Tremblay. Merci.
Effectivement, c'est complètement absurde. Et il faut lire Michel Tremblay, vous avez raison. Merci beaucoup, Katia. À suivre le grand écrivain togolais Sami Tchak, qui rit beaucoup d'ailleurs avec votre coup de gueule, Katia. Sami Tchak pour des fables africaines surprenantes qui posent des questions sur la vie en interconnexion avec la nature. Tout est lié. On continue à en parler. C'est la chaîne alimentaire décryptée par Sami Tchak. Et voici le tout nouveau titre du groupe congolais Staff Benda Bilili, qui vous souhaite en ce dernier week-end de janvier une bonne année. Merci à vous d'écouter la librairie francophone. Bonne année à tous, bonne année 2020. C'était le bonne année de Staff Benda Bilili. La dernière occasion en tout cas de formuler ses vœux en cette fin janvier.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Sami Tchak est dans la librairie pour les fables du moineau paru chez Gallimard. Ce sont de petits contes africains qui s'entremêlent et qui portent un regard sur la vie et l'éternelle boucle de la chaîne alimentaire, Sami. Cette chaîne est souvent cruelle, mais vous dites qu'elle relève d'une mystérieuse fraternité universelle.
Oui, paradoxalement, oui, c'est dans cette cruauté apparente que toute la chaîne prend son sens. Je crois franchement que sans l'appétit du lion, peut-être que dans la savane, l'antilope n'aurait pas toute la valeur qu'elle a. Cette chaîne-là permet cette fraternité qui me fait dire que le lion qui mange l'antilope a un rêve. C'est une savane où il y a de plus en plus d'antilopes.
Oui, c'est ça. Ouais. Sauf qu'à un moment, dans votre histoire, dans l'une de vos histoires, il y a l'antilope qui va aider le lion, la lionne, qui a perdu son petit. Elle va la soulager moralement. Et la lionne écoute, est très attentive, et puis à la fin elle lui dit « Bon, je n'ai pas d'autre choix que de te manger. »
Oui.
C'est affreux.
Ben oui.
Oui. Et vous dites que c'est l'antilope qui est en cause parce qu'elle s'est placée comme victime.
Mais elle s'est placée comme victime et comme proie, puisque elle sait très bien qu'elle est quand même la proie privilégiée de la lionne.
Oui.
Elle s'avance vers la lionne pour la consoler. Ouais, l'autre partie de l'histoire, c'est que la lionne venait de perdre ses deux petits.
Oui.
Or, avant de les perdre, elle avait tué le petit de l'antilope qui vient la consoler. Et c'est dans cette chaîne-là qu'il y a peut-être une morale possible. C'est que même avec l'autre en face qui, parce qu'il en a besoin, se montre cruel avec nous, nous pourrions aussi avoir une petite compassion quand il est dans le malheur. Puisque sa cruauté est une nécessité, elle nous maintient en vie, même si elle est cause de notre mort parfois.
Et c'est une boucle en fait.
Oui, c'est vraiment
tout se retrouve.
C'est vraiment une boucle.
On se retrouve avec notre condition humaine ou condition d'animal, et au final tout est lié. Donc il faut à la fois se méfier de l'autre et à la fois avoir confiance en l'autre.
Oui, il faut. Je pars de l'idée qu'il faut avoir une grande méfiance d'abord à l'égard de soi. Ensuite, à l'égard de l'autre, tout en ayant confiance en lui, même quand on sait qu'il pourrait nous tuer. Parce que s'il nous tue, il y a une nécessité qu'il nous tue, et notre mort pourrait être à l'origine de plusieurs vies. Ça, je tiens quand même à le souligner.
Et au début du livre, un moineau se pose sur un baobab. Ils font un pacte tous les deux, car ils se rendent compte qu'ils viennent tous les deux d'une graine ou d'un œuf, pas plus gros l'un que l'autre. Donc on est égal, mais on meurt inégal. Parce que le baobab va vivre très longtemps, alors que le moineau a une vie très courte.
Oui, le
moineau. Et pourtant, la graine est la même quasiment.
Oui, le moineau, il est très petit par rapport au baobab. Il va vivre moins longtemps que le baobab. Mais ce qui est important, c'est que dans sa petite taille et dans sa vie courte, il porte l'entière condition de l'existant. Parce que le moineau, quel que soit le nombre de jours ou d'années qu'il a à vivre, il va expérimenter ce que le baobab vivra tout au long de ses décennies.
Aidé par un jeune humain, Aboubakar, qui au départ veut tuer le moineau, comme on lui a appris. Sauf qu'il réalise qu'il peut se servir du moineau et que le moineau peut se servir de lui. Bref, on va laisser la place à nos libraires. Sami Tchak, avec la Suisse, la Belgique et le Canada, on commence par qui?
Oh ben, j'écouterai surtout la personne qui n'a pas aimé.
Alors, qui est un peu plus mesuré? Nathalie Clairin, je crois, en Belgique.
Moi, personnellement, j'ai bien aimé le côté philosophique du recueil, donc sur les liens inextricables entre la vie et la mort de tous les êtres vivants. Et pendant toute la première partie, ça m'éclairait littéralement beaucoup. Mais je dois avouer que plus loin, à certains moments dans le recueil, j'ai eu cette impression de m'enliser dans quelque chose d'assez obscur. Et je ne suis pas arrivée à adhérer à cette notion de légitimation de toute mort jusqu'à celle survenue dans le cadre de sacrifices d'une cruauté inimaginable. Donc, je suis partagée.
Mais le monde est cruel, la savane est cruelle, vous savez, Nathalie. Et Samy acquiesce.
Oui, malheureusement.
La Suisse avec Yasmina Giaquinto.
Oui, Samy, vous êtes de ces écrivains qui font des mots une merveille. Il y a des phrases que j'ai relues 10 fois et que j'ai envie de transmettre aux autres. Vos fables nous remettent debout, les pieds ancrés au sol et la tête qui pense. Alors vous l'avez découvert tout à l'heure avec Emmanuel, ma librairie s'appelle la librairie du Baobab. Alors imaginez comme j'ai aimé la valeur que vous avez donnée à cet arbre.
Oui, Sami Tchak, le Baobab. Et en Australie d'ailleurs, Frédéric et Sandrine Moucher peuvent nous le dire, le Baobab a servi de prison, d'ailleurs pour certains aborigènes, par les colons. Donc le Baobab, il a toute une histoire, mais là il a une histoire régénérante. Il aide le petit moineau à s'en sortir quelque
part. Oui, ici le Baobab porte le moineau dans ses bras, en hauteur, et c'est lui qui est d'ailleurs à l'origine de l'histoire qui va être racontée dans le livre, puisque c'est le baobab qui dit au moineau de raconter ses souvenirs, puisqu'il n'a pas beaucoup de temps à vivre, il aimerait l'écouter.
Alors il y a le ver de terre qui fait la morale à un oiseau, il lui dit « tu peux me manger, mais si tu mangeais plutôt une graine, tu donnerais la chance à cette graine de germer et de donner naissance à une plante ou à un arbre. Donc en prenant garde à ce que nous mangeons, on pourrait donc enrichir la nature et la vie au lieu de céder à ces tentations premières, Sami Tchak ?»
Oui, si on a le choix, je pense qu'il y a des moments où on pourrait épargner bien de nos proies. Malheureusement, dans ce cas, l'oiseau rappelle au ver de terre qu'il a besoin de protéines lui aussi.
Eh oui,
donc, il y a des moments où on n'a pas nécessairement le choix. La graine ne sera pas épargnée, le ver de terre non plus.
Et l'homme dans tout ça, Sami Tchak, est-ce qu'il use trop de sa force et de sa domination? Parce que le jeune Aboubakar, il se souvient de sa cruauté lorsqu'il était enfant, avec les termites, avec les fourmis et les oiseaux.
L'homme est peut-être celui qui, dans la chaîne, a brisé un certain équilibre dans la mesure où sa cruauté ne relève pas nécessairement de la nécessité. Il est, de tous les existants, le seul à l'associer au plaisir.
Eh oui.
Voilà. Et je pense que le terme de sadisme ne pourrait par exemple pas être appliqué à un lion, mais à l'homme si.
À l'homme, oui.
L'homme
oui.
est quand même celui qui part de la cruauté pour le plaisir.
Et pourtant, dans la nature, il y a des éléments et des animaux bien plus puissants que certains hommes. L'une de vos fables conseille aux hommes, notamment, de regarder l'âne en érection.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que l'homme, oui, il est très puissant, c'est vrai, mais je tente aussi de le confronter aux animaux pour qu'à un moment, il revienne à un peu de modestie.
Un peu de modestie. C'est un peu l'histoire de l'éléphant face à un homme nu, vous connaissez voilà, cette histoire. Ouais. Face à l'homme nu, l'éléphant lui dit « Mais comment fais-tu pour boire avec ce truc minuscule ?»
Oui, ça, l'homme doit être un peu plus modeste. Oui.
Bon allez, on va au Canada avec Katia qui a lu aussi cet ouvrage, ces fables africaines. Katia.
Oui, alors Samitchak, je vais avouer que je n'ai pas été consentante dès le début de ma lecture. J'ai résisté un peu à la fable, à ce choix formel, très rare, mais ce choix prend tout son sens pour le philosophe que vous êtes. La survivance des choses, l'idée que tout fait partie d'un grand tout, la condition humaine, la nature même de la mort sont autant de réflexions qui nous habitent à la fin de votre livre. Et je vous ai aimé cru et cruel.
Vous avez aimé cru et cruel. La nature nous a doté à tous, à toutes les espèces d'ailleurs, de défense ou de bouclier. Ce qui vous conduit à écrire, Samitchak, vit avec l'assurance d'être protégé, vit avec la conscience que tu es exposé. Oui.
Ah oui, je pense que si on n'a pas ces deux consciences-là, on perd l'essentiel, surtout la conscience d'être exposé.
Mais oui.
Je pense que quelle que soit notre puissance, nous sommes exposés. Et l'être humain est le premier peut-être à devoir le savoir puisqu'il porte en lui déjà ses ennemis. Ne serait-ce que les bactéries qui nous habitent et qui, à un moment d'allier, peuvent devenir nos pires ennemis. Nous sommes exposés malgré notre protection. Oui.
Merci beaucoup, Samitchak.
Merci.
Merci d'être revenu dans la librairie francophone. Merci. Les fables du moineau sont parues chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Continent Noir qui fête d'ailleurs ses 20 ans en ce mois de janvier 2020.
Oui.
Et vous avez été un des premiers auteurs.
Oui, je suis le tout premier.
Le tout premier.
Pour le 20e anniversaire. Mais ça fait 20 ans que j'ai rencontré l'éditeur.
Parfait. Merci Samy, à bientôt.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec l'artiste français Hervé. C'était Hervé avec un extrait de La peur des mots, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Tristan Gratalon. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère et Swann Blanchet en France. Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse. René Mikkels avec Valérie Pute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, une émission danse. Nous parlerons bande dessinée avec le grand Michel Rabagliati, auteur de bande dessinée québécoise culte, mais aussi l'écrivaine française Claire Castillon. À très bientôt. Bon week-end, bonne semaine. Salut.